Les terres rares. Ok. Donc là, on parle des minerais pour la fabrication d'ordinateurs, ce genre de choses.
Ah oui, oui, il veut aller en Ukraine, c'est vrai. Il veut aller en Ukraine pour exploiter des terres rares sur le territoire ukrainien, c'est vrai.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, l'émission qui s'empare des mots qui flottent dans l'air du temps, ces mots qu'on entend mais qu'on ne comprend pas toujours. Ici, chaque après-midi, on les décrypte dans la joie et la bonne humeur, et aujourd'hui une émission qui va certainement relancer les velléités entrepreneuriales de Quentin, lui, le Rockefeller d'Alençon, puisqu'on va parler des terres rares. Un marché que Quentin surveille depuis plusieurs mois maintenant, depuis qu'il a compris que les métaux stratégiques offraient des rendements supérieurs à la commercialisation de tasses faisant le bruit des cigales.
Ça reste
depuis qu'il a lu que Trump voulait faire main basse sur les terres rares ukrainiennes et qu'il a compris que le samarium, le terbium ou le dysprosium n'étaient pas des MST, mais des métaux extrêmement précieux pour construire des batteries de téléphone. Il parcourt les champs du bocage normand avec son détecteur de métaux. Heureusement que Polo est là pour l'aider à tenir le manche, parce que c'est lourd ce machin. Alors, pour l'instant, il n'a trouvé que 3 pièces de 5 centimes et un CD best-of de Dave, ce qui l'a d'ailleurs beaucoup ému, évidemment, parce que ça lui a rappelé qu'il avait lui-même chanté avec Dave.
Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde.
Je pense qu'il ne s'est pas payé.
Mais aussi, il n'était pas payé, mais aussi parce que ça pose la question, qui peut être assez vicieux ou lui en vouloir suffisamment pour enterrer un album de Dave? Très vite, Quentin a compris, Christophe Ondelat était passé dans ce champ.
Ce mec-là, tous les samedis après-midi, joue avec le plus grand musicien français et il t'emmerde, et je t'emmerde avec lui. Tu es nul, tu es misérable.
Private joke dans la private joke, un peu Inception de la vanne cet après-midi pour ouvrir ce Zoom Zoom Zen. Effectivement, une archive qu'on avait envie de partager avec vous. C'était Ondelat s'attaquant à notre ami Dave.
Ah oui, notre ami Dave.
Ça, on n'a pas apprécié. Alors, que sont vraiment les terres rares? La France a-t-elle des terres rares? Les terres rares sont-elles si rares que ça? D'ailleurs, les terres rares sont-elles vraiment des terres tout court? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, Guillaume, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Vous avez publié il y a quelques années maintenant « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique », une enquête publiée dans une quinzaine de pays, couronnée du prix du livre d'économie 2018, et qu'on peut retrouver aux éditions « Les liens qui libèrent » maintenant en format poche. Vous allez donc tout nous expliquer de ces terres rares qui font l'objet de tant de convoitises. Juste le temps de vous présenter deux individus rares, qui font eux aussi l'objet de bien des convoitises. Je passe mes journées à répondre aux gens de RTL. Non, ils sont pas dispo, maintenant ça suffit, ne rappelle plus Jonathan. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour,
bonjour, bonjour.
Oh, on peut discuter.
Oh, comment ça?
C'est une blague.
Quelle trêve, oh là là. Moi jamais.
Non. Bizarrement, je vous crois
pas. Il sonnait faux.
Le cours Florent, c'est loin.
Ouais, ouais,
c'est à vos côtés, Guillaume, elle est elle-même constituée d'un métal rare, puisqu'elle a fait recouvrir tout son œsophage de titane. Plus pratique pour bien profiter des happy hours, avait-elle expliqué au chirurgien. Manon, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, l'ingénieur à l'origine de la première usine européenne de recyclage de terres rares qui doit ouvrir en France l'année prochaine. Ça vous fait rire, Cyril.
C'est le bruit de l'œsophage.
Face à vous, Guillaume. Il est toujours avec son détecteur. Excusez-le, là, il cherche un directeur des programmes. C'est comme une terre rare, mais en plus rare. Vous trouvez, Quentin?
Ça bip du côté de Cyril.
Oui. Oh non.
Oh, c'est fou.
Oh, quel hasard.
Oh,
incroyable. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des gens pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, les terres rares, déjà, est-ce qu'ils voient de quoi on parle?
L'actualité, l'Ukraine, les accords, ils ont identifié que c'était un réel enjeu stratégique pour l'avenir. Mais la France, est-ce qu'elle se défend sur ce sujet? Je suis venu discuter dans la rue. Des terres rares, des minerais, des forages, des extractions. Ça arrive quand même pas souvent.
C'est
écoutez le micro-trottoir dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, qui de Manon ou Quentin était le plus fort en physique-chimie au lycée, ou disons le moins nul? La réponse vous attend à l'issue, forcément rocambolesque, d'un Zoom Zoom test spécial métaux. Voilà. Juste avant 17h, on retrouvera Tania Dutel. Mais d'abord, Guillaume Pitron, pourquoi sommes-nous devenus si dépendants à ces fameuses terres rares?
Alors d'abord, les terres rares, c'est une famille de métaux. On en compte 15. 17 éléments, mais 15 métaux, parce qu'il y en a deux qui ne sont pas à l'état de métal. Et ces métaux ont des propriétés diverses et variées, chimiques et physiques, tout à fait extraordinaires, et notamment la propriété d'être des métaux magnétiques, pour certains d'entre eux, à savoir le samarium, le néodyme et le praséodyme. Et en fait, parce qu'ils sont magnétiques, ils permettent de faire des aimants. Et en fait, un aimant, quand il est croisé par un courant électrique, eh ben, il tourne. Et en fait, depuis les temps immémoriaux, on cherche à se déplacer, on cherche à créer du mouvement. Alors, soit on se déplace avec nos deux pieds, et puis quelquefois, on utilise des chevaux pour se déplacer. Et puis, en fait, le piston, c'est une façon, avec les révolutions industrielles, de créer du mouvement en, et donc de déplacer notamment des machines à vapeur, des locomotives et des voitures.
Ça fait longtemps que ces terres rares sont rares, en fait. Enfin, sont précieuses, en fait.
Elles sont précieuses depuis qu'on les a découvertes et depuis qu'on sait les utiliser, les fabriquer en aimant, les transformer en aimant, et avec un aimant traversé par un courant électrique, eh bien en fait, on fait tourner cet aimant, et donc on fait tourner le moteur de votre brosse à dents électrique le matin. Ça, vous comprenez pourquoi on ne pourrait pas vivre sans terres rares, mais aussi le moteur des voitures électriques. Et donc tout ce qui tourne aujourd'hui, sans avoir besoin de brûler du combustible, eh bien c'est notamment grâce aux terres rares.
Pour lui, les terres rares, ce sont les coteaux du Bordelais. Ouais. Les pentes de Saint-Joseph, les parcelles de Nuit-Saint-Georges, le rhodium, qu'est-ce que tu veux que je m'en foute, disait-il à midi chez Blériot, avant de réaliser l'importance de ces métaux stratégiques, quand je lui expliquais que sans eux, pas d'iPhone, et qui dit pas d'iPhone, Cyril dit pas d'appli Vivino. Cyril Lacarrière, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Maintenant que vous avez enquêté, vous êtes en mesure de nous
enquêter.
Les terres rares, d'où ça sort ?
Eh bien déjà, vous serez ravis d'apprendre que les terres rares ne sont pas des terres. On nous ment, c'est le grand complot. En fait, terres rares, c'est une expression qu'on utilise de manière un peu abusive. Les terres rares, ce sont des métaux stratégiques, on a commencé à le dire, mais attention, pas de méprise. Tous les métaux stratégiques ne sont pas des terres rares. Et d'ailleurs, même la notion de terres rares est trompeuse, car ces métaux ne sont pas forcément si rares dans la croûte terrestre. Le problème, c'est qu'ils sont difficiles à extraire et plus souvent dispersés dans d'autres minéraux. C'est justement cette difficulté à les extraire qui leur vaut cet adjectif de rareté. Et c'est dans une carrière suédoise près de Stockholm que la première terre rare a été découverte. C'était en 1787, mais aujourd'hui, c'est en Chine que se concentre la production mondiale.
Alors, c'est quoi concrètement ces terres rares ?
Eh bien, il y a 17 métaux, on a commencé à le dire là aussi, qui sont considérés comme des terres rares. Notamment, j'en cite quelques-uns, le lanthane, le cérium, le néodyme, le samarium et autres erbium, et ils font partie des lanthanides. Et puis, il y a le scandium et le lithium. Soyons francs. J'aurais pu vous lire ça ou n'importe quoi d'autre dans une langue que je viendrais d'inventer, que ça aurait eu exactement le même effet, et c'est valable pour moi. À part pour les spécialistes, tout ça, c'est souvent incompréhensible. Et pourtant, ces terres rares, elles sont partout. Dans nos téléphones portables, nos écrans, les appareils photo, les robots, l'armement, le moteur des voitures électriques et hybrides, les nouvelles technologies les ont rendues indispensables à notre quotidien et donc un puissant enjeu de business mondial. Les terres rares, vous en entendez parler tous les jours, sans comprendre de quoi il s'agit, eh bien, vous êtes au bon endroit pour tout comprendre, et tout ça en une heure.
Merci beaucoup Cyril. Guillaume Pitron, en effet, on entend beaucoup en ce moment parler des terres rares, notamment depuis que Trump a voulu passer un marché avec l'Ukraine pour les exploiter. C'est vraiment devenu un enjeu géopolitique comme le pétrole jadis.
D'ailleurs, on l'appelle le nouveau pétrole. Souvent, c'est cette terminologie qui revient. Depuis une dizaine d'années, les politiciens européens parlent de ces terres rares comme le nouveau pétrole. En fait, longtemps, on n'a pas vraiment su quoi en faire. On savait qu'elles existaient depuis la fin du XVIIIe siècle. Et puis, dans les années 70, on a découvert leurs propriétés magnétiques. Et c'est là que les Japonais se sont mis à inventer des technologies d'aimants avec les usages que je vous ai évoqués. Et puis, progressivement, depuis une quarantaine d'années, les usages se multiplient. Et nos voitures deviennent de plus en plus électriques. Et donc, en fait, on en a besoin de plus en plus. Donc, c'est des métaux qu'on produit dans des proportions tout à fait faibles. Quelques centaines de milliers de tonnes par an. C'est un petit marché de 10 milliards de dollars. C'est très faible par rapport au marché des grands métaux. Chacun d'entre nous, finalement, si on rapporte cette production à 8 milliards de personnes, on consomme quelques grammes par an. Mais si on n'en a pas, eh bien, tout s'arrête. Alors, on pourrait les remplacer par d'autres matériaux, mais qui ferait que nos téléphones seraient plus gros, que nos voitures électriques seraient moins autonomes en termes de durée de déplacement.
Elles ne le sont déjà pas beaucoup.
Elles s'améliorent,
mais c'est comparé au thermique, pas encore.
Non, mais effectivement, les terres rares permettent justement d'améliorer cette autonomie. Et peut-être qu'un jour, les voitures électriques seront toutes aussi autonomes qu'une voiture thermique. Et donc, tout ça, c'est grâce à ces terres rares. Et donc, la question, c'est où est-ce qu'on va les chercher ? Et tout d'un coup, ça devient stratégique comme ça peut l'être pour d'autres matières comme le pétrole.
Et donc on sait qu'en Ukraine par exemple, il y a beaucoup de terres rares disponibles.
Ben, figurez-vous qu'on ne sait pas.
Ah non, c'est juste une spéculation.
Mais oui, en fait, Trump, d'abord il mélange tout.
Ça m'étonne de quelqu'un d'aussi rationnel que Cardinal.
Il n'a pas revu ses fiches, je ne sais pas qui les a préparées, si tant est qu'on lui préparait des fiches d'ailleurs. En fait, il a dit un jour, je vais aller chercher 500 milliards de terres rares. En fait, il a un peu mélangé dans le vaste ensemble des terres rares, tous les métaux qui se trouvent en Ukraine. Et il y en a plein des métaux qui se trouvent en Ukraine. On trouve du fer, on trouve un minerai très important qui s'appelle le graphite, qui sert pour les batteries des voitures électriques. On va trouver du manganèse, on va trouver du lithium. extrêmement important également pour les voitures électriques, le lithium. Et puis on va trouver, peut-être, parce qu'en fait il faudrait remettre à jour les inventaires miniers ukrainiens qui datent de l'époque soviétique, mais il y aurait des traces de terres rares, et donc des terres rares à exploiter. Donc Trump, il a parlé, en fait en gros il a parlé des métaux en général, et il a mis tout ça sous le vocable terres rares.
Zoom zoom zen, Mathieu Noël sur France Inter.
La course aux métaux stratégiques est lancée, Zoom, cet après-midi sur ce qu'on appelle les terres rares. Avec vous, Guillaume Pitron, vous êtes journaliste et chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On le disait tout à l'heure, les terres rares, elles ne sont pas si rares que ça, en fait. On en trouve un peu partout, c'est juste leur extraction qui est compliquée.
Voilà, donc elles sont mal nommées, ça a été dit. Elles, ce ne sont pas des terres.
Ce sont des minerais.
Ce sont des minerais, et à l'époque, on les a découverts. Donc, c'était à la fin du XVIIIe siècle. On pensait qu'elles étaient rares, parce que ça se trouvait plutôt. Enfin, on pensait qu'elles ne se trouvaient qu'en Europe et dans des faibles quantités. Or, en fait, on en trouve partout sur Terre. Et si on regardait la carte des gisements, c'est-à-dire en fait des mines potentielles non exploitées mais qu'on pourrait exploiter, en fait ce sont des dizaines de pays à travers le monde qui répondent à l'appel. On pourrait trouver des terres rares, on sait qu'il y a des terres rares dans le sous-sol du Brésil, du Vietnam, on en extrait des gens en Birmanie mais aussi en Australie, puis il y en a beaucoup en Chine.
Et comment on les détecte, ces minerais, ces terres rares ?
Alors, c'est un travail de géologue, ça passe par de l'exploration, on fait des carottages, et puis on analyse précisément les sols. Ces terres rares sont associées, en fait, à d'autres métaux dans le sol. Elles sont des sous-produits d'autres métaux plus abondants. Par exemple, on va trouver des terres rares, en général, dans des mines de fer. Par exemple, dans les mines de fer suédoises, du nord de la Suède, on sait que, associé à l'extraction du fer, on peut trouver ces terres rares. Et d'ailleurs, il y a des annonces d'exploitation de terres rares dans un futur proche en Suède. Et puis, mines de fer également en Chine, et donc terres rares.
Mais Trump, du coup, veut aller en Ukraine, même si on ne sait pas à quoi ça va lui servir pour le moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terres rares aux États-Unis ?
Alors, il y a des terres rares. Donc, comme je vous ai dit, il y en a peut-être en Ukraine. Et de toute façon, il y a toutes sortes de métaux autres que les terres rares, mais qui sont stratégiques pour les besoins des États-Unis. Donc, Trump, c'est pas déconnant, si vous me permettez l'expression, je suis sur Zoom Zoom Zen, de pouvoir vous dire qu'effectivement, il y a un potentiel énorme qui intéresse Trump là-bas en Ukraine. On y reviendra peut-être. Il y a des terres rares aux États-Unis. Les États-Unis ont extrait des terres rares et exploité jusque dans les années 80, dans une mine qui se trouve en Californie, au milieu du désert de Mojave, et qui s'appelle toujours Mountain Pass. Simplement, c'était très polluant. Donc, ils ont fermé la mine, parce qu'il y avait des réglementations écologiques qui étaient incompatibles avec la mine. Donc, tout ce qui a fermé aux États-Unis a ouvert ailleurs, là où on acceptait de se polluer. Et les Américains, entre-temps, ont réouvert leur mine de Mountain Pass, ils réextraient des terres rares. Pourquoi Trump va-t-il en Ukraine s'il a des terres rares aux États-Unis ? D'abord, il n'a pas toutes les terres rares, il n'a pas les 17 éléments de terres rares sur son territoire, il y en a d'autres qui se trouvent ailleurs. Et puis deuxièmement, il a un problème, c'est qu'il n'a pas la raffinerie. C'est un peu comme si vous faites la pâte à pain, vous n'avez pas le four. Donc en fait, il est obligé d'aller chercher ses fours en Chine. Donc il envoie cette terre rare en Chine, chez son ami Xi Jinping, pour se faire raffiner. Donc il y a un petit problème de souveraineté quand même sur ces sujets.
Mais il ne peut pas mettre des raffineries aux États-Unis ?
Si, alors il est en train d'en ouvrir.
Oui, c'est polluant.
Alors, il est en train d'ouvrir, d'abord ça coûte très cher. J'ai compris, si je suis la philosophie du bonhomme, qu'il n'a pas envie de mettre $1 de l'argent fédéral. Donc en fait, ils sont quand même des projets qui sont financés en partie par le département de la défense américain, parce que les terres rares servent aux technologies de défense, mais ce sont des investisseurs privés qui doivent investir avec un modèle économique. C'est potentiellement polluant, il faut traiter les eaux usées. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une usine de raffinage de terres rares dans son jardin. Donc c'est aussi du temps, du coup. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'effectivement, c'est vachement pratique d'avoir des pays du sud global qui acceptent de se salir.
Vous dites, on délocalise les pollutions, on organise le monde entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres.
C'est un peu cash, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on l'a fait depuis 40 ans.
Ça qu'on va continuer à le faire. Par exemple, la France, c'est quoi sa position là-dessus ? Il n'est pas question d'aller chercher, raffiner des terres rares chez nous, alors qu'il doit y en avoir dans le sol français, mais on fait ça à l'étranger ?
Alors, jusque maintenant, on l'a fait à l'étranger et personne ne savait la réalité. C'est-à-dire qu'on était absolument certain d'être propre, vert, responsable, durable, etc. Alors qu'en fait, la merde était ailleurs. Et puis un jour, tout d'un coup, on se réveille et on se rend compte qu'en fait, ces métaux existent déjà, parce qu'on savait pas qu'ils existaient. On ne savait pas qu'on les utilisait, on ne savait pas que cette émission ne serait pas possible actuellement en direct sur France Inter. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que si on veut ne pas dépendre des Chinois qui évidemment nous tiennent la dragée haute, il faut aller chercher ailleurs et du coup, on peut aller chercher chez nous. Donc la France, pour répondre à votre question, a des terres rares, mais probablement dans des quantités. Alors elle en a dans le massif armoricain notamment et dans le massif central. Mais la dilution, vous l'avez dit tout à l'heure, de ces matières premières est telle, les gisements ne sont pas très intéressants. Je ne suis pas sûr qu'en France, ce soit intéressant d'aller chercher ces terres rares en particulier. Oui pour du tungstène, oui pour du lithium, mais pas les terres rares peut-être qu'on irait plutôt les chercher, par exemple, chez les Suédois. Mais en tout cas, la question de réouvrir des mines chez nous, pour nos téléphones portables, pour nos voitures électriques, pour notre souveraineté, mais qui n'est pas seulement une souveraineté industrielle, minérale, c'est la souveraineté sur nos équipements, c'est notre souveraineté culturelle, etc. Bah, en fait, elle passe par peut-être l'ouverture de ces mines.
Vous pensez qu'on laisserait faire en France une ouverture de mines? Je pense aux associations écologistes.
Alors, je ne suis pas Madame Soleil, mais c'est vrai que ça va être compliqué.
Ça poserait des questions, forcément.
Mais vous comprenez, ça fait 10 ans que quand on allume la télévision à 19h57, on nous offre de sauver la planète en achetant une voiture électrique. Comprenez-moi bien, il faut la voiture électrique. Je la préfère infiniment à la voiture thermique. Mais simplement, elle n'est pas propre. Quelqu'un, pour que vous soyez propre, doit être sale à votre place. Voilà. Et où un jour, on se réveille et on nous dit, bah, en fait, si tu veux rouler en voiture électrique, il va falloir creuser dans ton jardin. Mais les Français ne sont pas au courant. Donc, il y a une telle pédagogie à passer pour expliquer ce qu'on vient de s'expliquer et pour pouvoir dire, mais en fait, il vaut mieux les extraire chez nous qu'ailleurs, parce que c'est pire ailleurs et que ce serait moins sale de le faire chez nous et que finalement, ce serait une bonne décision écologique d'aller creuser dans l'Allier. Et il va falloir du temps.
Il va falloir du temps, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette exploitation des terres rares direction la rue, pour parler de ces minerais? Est-ce que les gens voyaient de quoi vous leur parliez, Quentin?
C'est exactement la question que je me suis posée. Les terres rares ont-elles retenu l'attention des passants? J'arrête ce jeune homme dans la rue.
Les terres rares. Ah oui, oui, il veut aller en Ukraine, c'est vrai. Il veut aller en Ukraine pour exploiter des terres rares. Ce que Trump aimerait faire, c'est le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Mettre ça sur le plateau pour que Zelensky lui donne un peu plus de liberté sur justement l'exploitation des terres rares.
Et cet accord, il n'est pour l'heure toujours pas signé, alors que lui contourne le kiosque à journaux. J'arrête cet homme, un appareil photo style rétro dans les mains. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Romain.
Romain, vous avez quel âge?
39 plus 4.
C'est bien, non?
39 plus 4.
Vous prenez les gens en photo?
Je suis photographe. Eh ben ça, c'est un petit appareil photo compact. Pour faire de la photo de rue.
Je lui fais lire le mot du jour qui nous intéresse aujourd'hui.
Les terres rares. Donc là, on parle des minerais pour la fabrication d'ordinateurs, ce genre de choses.
Exactement.
Non, mais c'est aussi une question d'avenir, hein, que ce soit au Groenland. On voit bien Trump qui est attiré par Groenland. L'Antarctique, le traité de l'Antarctique qui s'arrête dans 40 ans, je crois. Moi, je suis allé en Antarctique. Là, je suis photographe de paysage et j'ai passé 6 mois là-bas. À faire le tour de l'Antarctique. On est assez tranquille en Antarctique, il n'y a personne, il n'y a pas d'humains quasiment, quelques stations scientifiques. Et donc j'ai croisé les quelques bateaux que je croisais, hein. Il n'y en a pas 30 000. Hein. Donc j'ai vu des bateaux russes, des bateaux chinois commencer à tourner autour pour faire des... On ne sait pas trop quoi, mais bon, on se doute bien que c'est pour sonder un peu le sol, ce genre de choses.
Alors lui, c'est la bonne pioche du jour quand même, trouver le mec qui a photographié l'Antarctique. D'ailleurs, intéressant, il mentionne le traité de l'Antarctique que je découvre, signé en 1959 par 12 pays, dont les États-Unis, l'URSS, la France et le Royaume-Uni. Traité qui dédie la zone exclusivement à la paix et à la recherche scientifique. Aucune activité militaire, interdiction d'essais nucléaires, interdiction de toute exploitation minière. Oui, Mathieu?
Oui, bah, si vous écoutiez plus dans le quiz, vous auriez déjà la connaissance de ce traité.
Je n'en souvenais plus.
Ouais,
sauf que ce traité de l'Antarctique, il prend fin en 2048.
Il faut continuer à le préserver. C'est le dernier endroit sur Terre qui est très très bien préservé de l'humain et de l'humanité. Donc il faut continuer.
Est-ce qu'on en aura les moyens? Sachant qu'on a tous des terres rares dans la main, il va falloir retrouver des terres rares, quoi.
Il va peut-être falloir changer aussi de modèle au bout d'un moment. Quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole, on ne va pas pouvoir le remplacer. Quand il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de gaz. Et ça va arriver assez vite. Donc... au lieu de chercher la dernière goutte de pétrole, peut-être qu'il faudrait mieux penser à qu'est-ce que ce sera l'après-pétrole, par exemple. Et exactement la même chose pour les terres rares.
Alors que lui, il sort d'une belle voiture, je rencontre Vincent, 62 ans, plutôt chic. Il me confie être bientôt à la retraite, mais qu'il est encore dans le conseil, aux entreprises aujourd'hui. Que pense-t-il, lui, des...
Les terres rares, ouais, ok. Ukraine, Trump, Poutine.
Pas mal.
Yes. C'est immoral, on va dire. Voilà, vous avez 1 million d'Ukrainiens qui ont été massacrés, je sais pas, 400 000 Russes qui ont été tués, et à la fin, on fait du business, on se répartit les dépouilles. Voilà, ça vous va?
Ça me va, je vous conseille d'abandonner ce piton avec moi. Il va pas s'enfuir comme ça. Alors Vincent, ces terres?
Elles sont rares, il y en a apparemment en Ukraine, mais on ne sait pas exactement combien. Apparemment, M. Trump pensait à 500 milliards de dollars, et apparemment, lui a dit calme-toi, il n'y en a peut-être pas autant. Donc, d'où maintenant les discussions qu'ils ont entre Poutine et lui pour se répartir les autres actifs de l'Ukraine, parce qu'apparemment, il n'y a pas exactement ce qu'on prétend dans les sous-sols. C'est tout ce que je sais, hein, voilà. Mais les terres rares, je ne sais pas où il y en a peut-être en France, il y en a peut-être aussi en Amérique. Amérique du Sud, j'en sais rien, je ne suis pas géologue de formation.
Mais il y en aurait même dans les Pyrénées-Atlantiques. Seront-elles la future ruée vers l'or du sud-ouest français ? Le problème pour Vincent, c'est que...
Et en fait, c'est d'un point de vue environnemental extrêmement dévastateur. Alors bien sûr, ça permet aux bobos parisiens de rouler en Tesla, mais bon, après, il y a un prix pour tout, hein.
Vous roulez en Tesla, vous ?
Non, moi, je suis en voiture à essence. Je suis un terroriste climatique.
Alors, avant de laisser le terroriste climatique, je lui demande si on est en retard, nous, en France, sur ces terres rares.
On n'est pas en retard. Le train est passé il y a 10 ans. On n'est pas en retard. Vu les positions, les positions non stratégiques du gouvernement d'un point de vue politique international, on aura, si l'Ukraine est redivisée entre la Russie et les États-Unis, on aura peut-être le droit à un poulailler, peut-être, deux poulaillers. Mais on n'aura rien, zéro. Bah parce qu'on n'a pas de vision stratégique dans le pays, on n'a aucune vision stratégique, enfin d'un point de vue économique j'entends, il n'y a aucune vision stratégique, on est encore en train de se battre à savoir si on doit, qu'est-ce qu'on doit faire pour relocaliser, sachant qu'il y a des fonds vautours qui opèrent en France, qui sont très proches du gouvernement, qui n'arrêtent pas de piller la France et de fermer des usines, donc il n'y a aucune vision stratégique, il n'y a que des intérêts personnels financiers à court terme, et je suis bien placé pour en parler parce que je travaille dans ce domaine-là, donc je sais comment ça se passe, et voilà, il n'y a aucune vision stratégique pour la France.
Il en voit, Vincent, elle nous obsède, ah ouais. Elle nous obsède finalement, ces terres rares, comme une course à l'avenir en puisant, en forant, en marchandant. L'humanité finalement, de toutes les matières, c'est bien les matières premières qu'elle préfère.
Ça venait de loin, ça. J'aurais voulu être une mouche, Quentin, pour voir ce moment où vous avez dit à Vincent « Je vous conseille d'abandonner ce petit ton avec moi. » Oui. Parce qu'évidemment, vous avez forcément prononcé cette phrase face à lui. Personne n'en doute.
Ça filait doux.
Oui, bien sûr. Guillaume Pitron, la France n'est pas en retard. Elle a raté le train il y a 10 ans et elle n'a aucune vision stratégique en matière de terres rares. Qu'est-ce que vous répondez à Vincent ?
D'abord, je pense qu'il aurait fallu l'inviter parce qu'il est quand même vachement intéressant. Écoutez, la France a été un leader du raffinage des terres rares. C'est-à-dire que dans les années 80-90, la France raffinait 50% des terres rares de la planète. On allait les chercher chez les Australiens et on les amenait à La Rochelle. Et on les raffinait dans une usine qui était l'usine du groupe Rhône-Poulenc. Rhône-Poulenc devenu au mi-temps des années 90 Rhodia et aujourd'hui Solvay. Simplement, séparer les terres rares du thorium et de l'uranium avec lesquels ces terres rares sont naturellement associées
dans le monde
terrestre, les ramener à La Rochelle et les séparer, eh bien en fait, ça génère des faibles, je dis bien, dose de radioactivité associée au thorium et l'uranium. Et du coup, il y avait une psychose qui s'était emparée de Rochelet dans les années 80, début des années 90, disant l'usine de Rhône-Poulenc est une usine atomique. Donc du coup, on a fait fermer une partie des activités et on a envoyé tout ça en Chine parce qu'on ne voulait pas de la radioactivité associée aux terres rares. Donc en fait, on a laissé tout ça partir et aujourd'hui, on a 10 ans, peut-être même 15 ans de retard, et on est en train d'essayer de relancer la partie raffinage des terres rares et notamment aussi la partie fabrication des aimants de terres rares.
J'ai parlé du traité de l'Antarctique qu'on a découvert dans le Zoom Zoom Test il y a quelques émissions.
Qu'on a oublié.
Voilà, mais bon. Qui date de 1959. On avait déjà identifié en 59 une éventuelle ruée vers l'or, vers les différents pôles, le Groenland, l'Antarctique.
Alors, d'abord, on a des très bons géologues en France. On a le BRGM, le Bureau des Ressources Géologiques et Minières, qui est une entreprise publique et qui est établie à Orléans. Et les géologues, parmi d'autres personnes qui composent le BRGM, c'est leur métier et c'est leur expertise que d'explorer et de connaître précisément la teneur des gisements en France et dans le monde. Donc la France a mené diverses missions à travers le monde pour le compte d'autres États, pour connaître précisément la teneur de certains sous-sols, y compris la teneur de son propre sol. On a fait nous-mêmes un inventaire minier il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies. Donc on a une connaissance imparfaite, mais en France on sait repérer où se trouvent certains gisements de terres rares.
Est-ce que les terres rares pourraient disparaître si à un moment donné on ne va pas les chercher ?
Ah non, elles sont là, elles resteront, elles étaient là des millions d'années ou des milliards avant que vous ne naissiez, moi aussi, et elles resteront après nous. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'elles se raréfient parce que nous en aurons exploité de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous savez, les gisements les plus intéressants de classe mondiale s'épuisent, mais ça vaut pour d'autres minerais. Aujourd'hui, par exemple, le cuivre est un métal pas rare, mais on sait que ces gisements s'épuisent parce qu'on on creuse toujours plus profondément, et il y a un moment, il faut plus d'efforts, plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent pour aller les extraire. Et ça pose le problème de savoir si on aura assez pour tout le monde.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Vous avez aimé les questions sur le trône de fer dans notre quiz de vendredi.
Ouais.
Vous allez adorer. Oui, je vous laisse pas l'opportunité de répondre.
J'adore.
Je mets déjà le son. Vous allez adorer les questions sur le fer tout court et pas que le fer d'ailleurs, l'alu, le cuivre, tout ça. Je vois déjà la flamme de la passion qui brille dans vos yeux. Jouons sans plus attendre au Zoom Zoom Test. Aucun quiz, vous l'aurez compris, aujourd'hui consacré à l'univers fascinant des métaux. Quentin, Manon, enfilez vos blouses, ça va vous rappeler les TP de physique-chimie en terminale, si tant est que vous soyez allé aussi loin dans vos études. Et tout d'abord, je ne vous l'apprends pas, enfin surtout à Quentin, qui, je le rappelle, est à la tête de 12 SCI, l'argent dirige le monde. Et pourtant, c'est un autre métal qui devrait régner, car le métal le plus cher au monde est le platine, l'osmium ou le rhodium.
B. C'est vraiment...
Alors, si vous rajoutez un « derrière votre réponse, ça annule la réponse.
Ah, bah B sans...
platine.
B.
Sans, voilà.
A. B sans « bonne réponse okay. » de Manon Mariani. Effectivement, l'osmium. Et oui, Quentin, la prochaine fois que vous irez au manège à bijoux pour la Saint-Valentin 2026, ne dites pas comme d'habitude « donnez-moi le truc le moins cher ». Non, faites preuve pour une fois d'élégance. Oubliez que vous avez des oursins dans les poches et demandez un bracelet en osmium.
C'est l'hôpital.
Alors, faites très attention, Quentin. Vous avez
offert un t-shirt, quand même.
Vous avez offert un t-shirt que vous avez perdu.
Il y a 3 ans, délavé.
Vous êtes un ingrat, Quentin.
Zoom, zoom, zem.
Alors, évidemment, le prix vous fera un choc, Quentin. Monsieur, lui, ça va ? C'est sûr que 1 350 € le gramme, soit 15 fois plus que l'or, il va falloir en pondre des micro-trottes pour financer la Saint-Valentin. En même temps, c'est sa rareté qui fait le prix de l'osmium. À peine 120 kilos sont extraits chaque année à l'échelle du globe. Et puisqu'on parle moula, d'après vous, quel métal était aussi précieux que l'or ou l'argent au 19e siècle ? Attention, il y a un piège. Le cuivre, le balsa ou l'aluminium ?
C'est
A.
Maintenant, j'aimerais que vous mettiez un peu plus d'enthousiasme.
C'est bon. L'aluminium.
C'est, vous êtes sûr de vous ?
Oui.
Voilà, c'est une bonne réponse de Manon. Bon. Réponse C. Réponse C.
Je suis au full pif, là.
L'alu, ouais. C'est l'alu.
Full pif.
Full pif.
Elle encore paraît
une,
quand même
encore une nouvelle expression. Encore une nouvelle expression. Et oui, c'était, l'aluminium était aussi cher que l'or au 19e siècle. À l'époque, la fabrication de l'aluminium était si complexe que ça se répercutait sur son coût. Et ce qui n'avait pas empêché d'ailleurs Edmond de la Carrière, le bisaïeul de Cyril, d'offrir à sa promise pour leurs épousailles une sublime ceinture de chasteté en alu. Avec ça, la fidélité de ma femme, c'est du béton, avait-il déclaré, en clin d'œil avant-gardiste à une vanne que ferait Alain Chabat un siècle plus tard. Alain, qu'on remercie d'ailleurs d'être passé nous faire coucou à Lille.
Ah oui.
Et puisque l'alu semble vous passionner, ce que je comprends aisément, zoomons à présent sur un objet que vous avez souvent entre les mains, surtout Manon, une canette de 8-6. D'après vous, quelle quantité d'énergie produit le recyclage d'une canette de bière ? Suffisamment pour faire 1 km en Tesla à la vitesse de 17 km/h ? Suffisamment pour regarder la finale de l'Eurovision ? Ou suffisamment pour regarder 90 d'où ça sort sur sa télé connectée ?
Ah,
c'est...
Ça donne l'opportunité d'une autre réponse.
Les trois.
Encore une autre réponse. Oh, B et C, Quentin, bravo ! Oh oui, bravo, bravo, Quentin, B et C. Même s'il faut évidemment beaucoup de courage c'est pour bon. S'infliger l'Eurovision, bien sûr. Une canette recyclée, c'est 3 heures de télé ou 180 petits carnets de Pierre Courade, s'il respectait son timing. Mais attention, top. Pour la prochaine question, direction la capitale. Car Quentin, vous qui avez l'oreille absolue, vous aurez sûrement reconnu, il est 5h, Paris s'éveille. Ouais. Ici, délicatement interprété à l'accordéon par Cyril Lacarrière lors de ses 50 ans. Hélas pour vous, ce n'est pas l'oreille qui compte, mais la vision. Pour cette prochaine question, vous qui avez la chance de contempler la Tour Eiffel tous les jours à travers la fenêtre de l'Open Space, qu'avez-vous remarqué d'étonnant ? Que sa hauteur peut varier de 15 cm en fonction de la température ? Qu'elle peut bouger de 15 cm avec le vent ? Ou qu'avec le temps, elle s'est patinée, comme Cyril Lacarrière.
C'est
Les trois, les trois.
Les trois, bonne réponse, effectivement.
Elle s'allonge avec la chaleur.
Alors, écoutez, c'est les trois, donc c'est les trois, vu que je vous dise. La Tour Eiffel est en fer, donc elle se patine avec le temps, c'est évidemment, comme notre rédac chef. Elle se dilate avec la chaleur, comme notre rédac chef.
Oh.
Et elle est aussi sensible au vent. Le sommet de la Tour Eiffel a oscillé de plus de 13 cm durant la tempête de 1999. Il y a eu un relevé là-dessus. Parmi les trois affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? On peut se savonner avec de l'acier, on peut faire fondre de l'acier dans sa main, ou on peut manger de l'acier.
Ah.
On en mange.
Et c'est. A et C.
A et C, Manon. Et... Non. Bah, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, vous aviez la bonne réponse. Réponse A et C, n'en déplaise à notre réalisateur décroissant Ghislain Fontana, qui se déodorise à la pierre d'Alain et se brosse les dents à l'algue maturée. Il existe des barres de savon en acier capables d'éliminer les méfaits de l'ail et des aliments à forte odeur. Et oui, on peut manger de l'acier. Je dis pas qu'on doit, mais qu'on peut, notamment les personnes atteintes de la maladie de Pica, qui bouffent tout et n'importe quoi, maladie sur laquelle vous êtes incollable depuis le quiz sur l'orthorexie. Vous l'avez oublié celui-là aussi ?
J'ai oublié mission.
Rien
c'est pas la bigorexie ?
Non, l'orthorexie.
Ah,
c'est encore autre chose, vous n'avez vraiment rien compris. Victoire néanmoins de Manon Marielle.
Oui. Si.
Ah bon ?
Ah oui, là.
Bon, bah merci.
Full pif.
Full pif.
Vraiment.
Comme quoi ça marche.
Comme quoi.
La guerre des métaux rares, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité Guillaume Pitron cet après-midi. Ensemble, on zoome sur cette notion de terre rare qui est partout dans l'actu. Guillaume, on a parlé des applications concrètes des terres rares. On a vu qu'elles n'étaient pas si rares que ça. Elles sont juste réparties aléatoirement sur tous les territoires. Le Groenland, on en parlait tout à l'heure avec Quentin dans le micro-trottoir. Groenland, le Groenland sur lequel a des vues Donald Trump. Est-ce que là aussi, Donald Trump croit, comme pour l'Ukraine, qu'il y a beaucoup de terres rares au Groenland? Est-ce qu'il a raison de le croire?
Alors là, il a raison de le croire. Ah. Le Groenland, selon des estimations, alors elles varient toutes, mais recèlerait entre 12 et 25% des réserves de terres rares. Donc c'est vraiment colossal. Donc effectivement, si Trump dit qu'il veut aller se servir en terres rares, au Groenland, il a statistiquement plus de chances d'en trouver là-bas que d'en trouver en Ukraine. Et puis il y a d'autres métaux au Groenland, hein. On trouve effectivement toutes sortes de ressources, y compris de l'uranium, du cuivre, de l'or, et toutes sortes de matériaux. Le problème, et c'est moi, je ne crois pas un instant qu'il ira là-bas, le Groenland est un gigantesque pays, il y a 150 km de route, c'est un pays qui est sous la glace une grande partie de l'année, il n'y a pas de ressources humaines en quantité suffisante pour pouvoir extraire et exploiter ces ressources sur place, il faudrait faire venir évidemment le savoir-faire d'ailleurs, il n'y a pas de centrale hydroélectrique pour pouvoir produire l'électricité qui permettrait d'extraire et de raffiner, il n'y a pas de route, ou très peu, il n'y a pas d'autoroute, il faudrait des ports, enfin, c'est un bas hasard, les investissements attendus pour pouvoir extraire ces matériaux là-bas sont absolument gigantesques. Donc moi, je serais Trump, je commencerais par bien m'entendre avec mes voisins canadiens, je commencerais par arrêter de me mettre sur la poire avec mes petits copains canadiens pendant les matchs de hockey, je parlerais correctement à la présidente du pays qui se trouve au sud de chez moi, Claudia Sheinbaum, au Mexique, et j'irais leur demander poliment qu'est-ce qu'ils peuvent me fournir comme terre rare chez eux. Parce qu'il se trouve qu'il y a du lithium, qui n'est pas une terre rare, mais en quantité absolument colossale au Mexique, et il y a des terres rares à ne pas savoir qu'en faire au Canada. Ils ne les extraient pas, mais ils peuvent les raffiner, et ils peuvent les produire. Pour les Américains, ils sont même hyper demandeurs. Donc, commencez par aller voir juste de l'autre côté de votre frontière et n'allez pas traverser les océans pour aller chercher ça au Groenland.
Il faut vraiment lui envoyer votre livre, hein, La guerre des terres rares. Ça pourrait changer la donne pour Donald Trump, et peut-être changer la donne pour le monde entier. Un livre pour changer le monde, finalement.
Oh, j'adorerais, mais si je pouvais être reçu à la Maison Blanche, j'accepterais, compte tenu des enjeux, de passer
vous
le bureau
ça pour nous.
Quentin. Mais on n'a pas du tout tirer de leçons sur ce qu'on a fait avec le pétrole. On va continuer d'aller chercher dans nos sols de la matière qu'on va épuiser jusqu'à épuisement.
En fait, ce que vous dites est... Il y a la réponse dans la question, et en y répondant, je cite Einstein, qui a une phrase absolument magnifique, qui dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème, celui de notre addiction au pétrole, au gaz et au charbon, avec les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré et qui génèrent finalement de nouvelles addictions à des dizaines de matières premières qu'il faut bien aller extraire quelque part, avec des enjeux écologiques, avec des enjeux économiques, la dépendance à la Chine, avec des enjeux géopolitiques, se fera-t-on la guerre demain pour aller sécuriser les ressources les plus stratégiques? Tout cela, c'est un peu une répétition de l'histoire.
Mais le résultat de tout ça, qui est un peu effrayant si je vous écoute, c'est que la révolution de l'électrique, de la voiture électrique, de l'éolien, tout ça, ça génère une autre forme juste de pollution qui est délocalisée, invisible, mais on va aboutir au même problème à l'échelle mondiale.
Ça génère de nouvelles dépendances. Après, encore une fois, il faut faire attention parce que mon propos n'est pas du tout de dire qu'un monde de pétrole est mieux et préférable à un monde de terres rares. Je préfère vraiment un monde de terres rares. Un, parce que à quantité de production d'électricité équivalente, les technologies vertes, même avec les métaux qui les contiennent, émettent infiniment moins de CO2. Et puis après, ça pose la question de comment est-ce qu'on va accompagner tout ça d'une réflexion sur nos modes de consommation, sur nos modes de vie. Et je voudrais croire, dans un monde idéal, qu'avec le recyclage, avec les substitutions, avec aussi peut-être d'autres formes de consommation, on peut aller vers un monde qui soit soutenable. Mais ce n'est pas automatique et il va falloir qu'on continue à travailler.
Il y a encore beaucoup de boulot. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure maintenant de découvrir l'autre personne à suivre.
Oui, je vous présente Frédéric Carencotte. Il a une quarantaine d'années, il est français et il est ingénieur chimiste. Il a consacré une grande partie de sa carrière à l'industrie des terres rares. En 2019, il a créé Carester, une entreprise française spécialisée dans le recyclage et la séparation des terres rares. L'objectif est de devenir une référence européenne dans la production d'oxyde de terres rares à partir de matériaux recyclés dans le but d'offrir une indépendance à l'Europe sous la direction de Frédéric Arancotte, Carester a entrepris la construction de la première usine européenne de recyclage de terres rares à Lac, près de Pau. Cette installation s'appelle Kermag et devrait être opérationnelle d'ici fin 2026. Frédéric Arancotte salue une avancée majeure vers l'indépendance de l'Europe en terres rares pour les aimants permanents, dans un secteur, on l'a dit, largement dominé par la Chine. Ce projet a pour ambition de créer 92 emplois et a été financé à hauteur de 216 millions d'euros par l'État français et par des partenaires japonais. Kermag veut se spécialiser dans la production des aimants permanents, on l'a dit, ils sont utilisés partout, les frigos, les jouets, les disques durs, les moteurs électriques, les éoliennes, mais moins de 1% de ces aimants sont aujourd'hui recyclés alors qu'ils sont fabriqués à partir de terres rares. Kermag a donc un objectif, devenir non seulement le premier recycleur européen de terres rares, mais aussi le plus grand producteur occidental de terres rares. Elle veut couvrir 15% des besoins mondiaux. L'entreprise veut se démarquer grâce à des partenaires fiables. Elle en a déjà plusieurs, notamment le constructeur automobile Stellantis depuis septembre 2024. Un contrat a également été signé avec le Japon. Une partie de leur production sera pour eux. Le but est évidemment de contrer le monopole de la Chine sur les terres rares. Il va y avoir du travail, mais c'est peut-être déjà un bon commencement.
Merci Manon. Guillaume Pitron, cette usine, elle peut vraiment ouvrir une voie, une nouvelle voie pour la France ?
Oui, elle peut en partie combler nos besoins. Elle peut nous permettre d'être plus offensifs sur ce segment donc des aimants. Elle pose quand même la question de l'accès à ces ressources, c'est-à-dire où allons-nous chercher les ressources qu'il va falloir extraire du sol, raffiner, métalliser, avant d'en faire des aimants permanents. Ressources qui peuvent provenir de la mine, mais qui vont aussi de plus en plus provenir du recyclage, puisque une éolienne offshore, c'est un aimant de terre rare qui fait 600, 800 kilos, et qui peut être recyclé pour pouvoir être réutilisé. Donc ça pose la question des sources d'approvisionnement. Et puis il faut replacer ça dans un contexte plus large, qui est celui, effectivement, un progressif renouveau de l'industrie non chinoise des terres rares, avec les Japonais, les Sud-Coréens, les Américains notamment, qui se réveillent sur ces segments-là pour pouvoir, eh bien, contrer cette avance chinoise qui est colossale. Les Chinois produisent près de 90% des aimants de terres rares de la planète. Oui. Et en fait, il faut savoir que ces terres rares, elles sont aussi nécessaires pour des applications de missiles téléguidés. C'est les systèmes de guidage des missiles.
À l'heure de nous servent, de l'économie de guerre, on est mal barré.
Sur notre flanc oriental. Donc tout ça, ça fait partie d'un renouveau qui a mis infiniment de temps à se mettre, à être possible, parce qu'on a dormi, parce qu'on s'est assoupi. Et aujourd'hui, on voit progressivement ceci se réveiller. N'oublions pas que les Chinois ont quand même effectivement pas mal d'avance.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors que le mercato média a démarré en avance cette année, France Inter, déjà sérieusement affectée par deux désertions d'affilée, désertions qualifiées même par la direction générale de passage à l'ennemi, France Inter donc tremble à l'idée que RTL puisse lui piquer son humoriste phare, celui qui a réussi à s'imposer parmi les 18 humoristes de Zoom Zoom Zen, Pierre Courade, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, chaque après-midi, votre petit carnet, c'est du journalisme avec de gros morceaux de stand-up dedans. Votre mission, nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Les terres rares, aujourd'hui, c'est probablement le terme le plus impropre qu'on ait eu à décortiquer dans Zoom Zoom Zen. On n'a parlé ni de terre ni de rareté. L'allocution désigne des métaux plus difficiles à exploiter que d'autres, d'où leur relative rareté. Ils sont néanmoins présents un peu partout sur la planète, mais leur extraction est aujourd'hui très polluante. Notre invité, le chercheur associé à l'IRIS, Guillaume Pitron, nous a expliqué qu'il existe 17 terres rares, 17 éléments aux propriétés extraordinaires, pour la plupart magnétiques. Ils permettent de faire tourner tout ce qui n'exige pas de brûler du combustible. C'est ainsi que les terres rares font aujourd'hui l'objet de convoitises. Elles entrent dans tous les objets de notre quotidien, du smartphone à la brosse à dents électrique. Elles sont aussi indispensables à la transition écologique puisqu'on en retrouve dans les voitures électriques ou dans les éoliennes. Paradoxalement, il faut donc polluer pour décarboner et polluer essentiellement chez les autres, nous rappelle Guillaume Pitron. Pour le moment, on rechigne à forer chez nous, mais pas en Amérique latine ou en Ukraine. Entre parenthèses, Guillaume Pitron nous a expliqué qu'on ne savait pas vraiment s'il y avait des terres rares en Ukraine. Trump risque d'être déçu. En résumé, les terres rares sont aussi rares que Manon au bureau un jour de vente privée passage du désir. Aussi convoité qu'un casque souillé par Charles Leclerc, par Quentin, aussi difficile à raffiner que Cyril, et aussi précieuse que Mathieu Noël.
Qu'est-ce que vous entendez par la chute était très bonne. Vous avez 5 points, ça vous fera une image la semaine prochaine. En revanche, qu'est-ce que vous entendez par un casque souillé par Charles Leclerc ? Parce que l'image est quand même assez osée.
Porté.
Il a juste été porté.
Oui, porté, bien sûr.
Oui, pas de kink derrière.
Absolument pas.
Cette idée, d'accord. Merci Pierre. À vos côtés, Guillaume Pitron, elle nous a laissé entendre qu'elle aussi s'était documentée jusqu'au bout de la nuit. Mais est-ce vrai, Tania Dutel ? Ma foi, c'est à vous.
Alors, les terres rares C'est quoi? Donc, ça fait une heure que vous en parlez avec Guillaume Pitron, hein, chercheur, journaliste, pardon, réalisateur, auteur. Vous êtes la référence française du sujet, mais on comprend rien. Alors, attention, on comprend bien tous les mots que vous dites, mais les associations de mots comme ça, bah c'est non, en fait. Voilà, donc les terres rares, ce sont 17 éléments qu'on trouve en très faible quantité dans la croûte terrestre et qui sont indispensables à tout ce qui est high-tech, smartphone, éolienne, voiture électrique et tutti quanti. Est-ce que c'est pas plus simple comme ça?
Bon, pourtant, Pierre vient de le dire. J'essayais.
Mais la chronique, elle est écrite en avance, en fait. Voilà. C'est la Chine qui contrôle 80-90% de la production mondiale de terres rares. On en a en France, mais comme on veut devenir vert, on pollue ailleurs. Est-ce que je me trompe, Guillaume? Voilà. Donc c'est quand même plus clair. Et tout ça a été écrit à l'aide de terres rares. Mon ordinateur fait avec des terres rares. Enfin, mon ordinateur. En vrai, je tapais sur mon ordi, mais je faisais mes recherches sur mon téléphone, tout en culpabilisant, évidemment. Guillaume, vous introduisez votre livre La guerre des métaux rares en parlant de la machine à vapeur, révolution industrielle, remplacée au 21e siècle par le moteur à combustion interne qui permet notamment d'accroître la puissance des véhicules, bateaux. Et là, je m'arrête. Et c'est là que je vois que, de toute façon, on ne pense pas pareil. Parce qu'évidemment, vous détaillez tout, vous approfondissez tout, c'est votre métier. Moi, je n'ai qu'une seule question qui me vient en tête à la lecture de Puissance et bateaux. Si le Titanic avait eu des moteurs à combustion, aurait-il tout de même percuté l'iceberg ou pas? Bon, vous n'avez pas la réponse. Et bon, j'ai quand même conscience que de toute évidence, voilà, j'ai pas les bonnes questions. Alors, on parle des terres rares, on a parlé pendant des années de composants polluants, des années qu'on parle des batteries en lithium qui coûtent trop cher à recycler. Moi, je fais de l'éco-anxiété. Ça a paru entre autres sur mon bilan psychologique. En fait, l'éco-anxiété, c'est quand je vois, exemple tout con, quand quelqu'un se brosse les dents à côté de moi tout en laissant couler l'eau, j'ai envie de lui éclater les dents pour qu'il ait plus jamais besoin de se les brosser. Voilà, grosso merdo, c'est ça, l'éco-anxiété. Quoi. Donc, l'exemple que je vous ai donné, je l'ai vécu en relation. Certes, il a encore ses dents, hein, mais on a dû finir par se brosser les dents chacun notre tour parce que je le vivais trop mal. Donc, je parlais des batteries en lithium et ensuite, je suis partie sur une anecdote de couple. Là, je vais faire un petit combo. Un jour, je suis tranquille, en train de prendre mon petit déjeuner. J'ai mon ex qui arrive avec un petit appareil vers moi. Vlatipoc, je le vois l'allumer et se le foutre dans le nez. C'est un rasoir à poils de nez en forme de stylo. Donc, il se rase les poils du nez devant moi. Je rappelle, je petit déjeune. Parenthèse, autant vous dire qu'il n'avait pas la même attention avec son sillon interfécier. Oh. Eh ben, c'est vrai. Donc là, je vois le gars arriver avec son gadget à poils de narine et je lui dis, mais c'est pas mieux de prendre une paire de ciseaux qui ne consomme pas et de faire ça dans la salle de bain quand t'es solo? Et là, il me rappelle que je suis une hypocrite, mais il a pas pris le bon argument. Il me dit, oui, mais toi, ton womanizer, il fonctionne avec des piles?
Wow.
Tu m'attaques sur ce que tu veux, mais tu laisses mon womanizer tranquille. Effectivement, c'est une batterie. Sais-tu pourquoi? Pour l'étanchéité. Je peux aller sous l'eau avec. Le gars qui l'a créé a travaillé des mois, des années dessus. Il a demandé à sa femme d'essayer des dizaines de prototypes sur lesquels il travaillait. Tout était réfléchi. Tout. Une dernière chose avant de te demander de ramasser tes poils. Elle était avec un homme qui lui proposait des orgasmes. Toi, tu viens de mettre des poils de nez dans mon café. Oh.
Merci beaucoup, Tania Dutel. Avec vous, on a tout compris au sujet des terres rares. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Guillaume Pitron de nous avoir éclairé sur cette notion si importante. Et pour savoir plus, je rappelle votre livre « La guerre des métaux rares ». C'est en poche maintenant aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci. On a ouvert des mondes.
Des horizons incroyables. Des horizons, mais c'est ça, Zoom Zoom Zen. Zoom Zoom Zen.